Cube Radio. Vous l'avez vu? Vous l'avez lu? Maintenant, entendez-le. Avec Antoine Joubert et Germain Goyer, le guide de l'auto. Cube Radio.
Bonjour tout le monde, bienvenue au Guide de l'auto, édition du 30 mai 2020. Il a fait chaud cette semaine, Germain.
Oui, on le voit pas à la radio, mais je suis en Bermuda.
Ah, puis moi, comme je suis ton aîné, je vais dire que je suis en culotte courte.
Voilà.
Hein, c'est pas pire, ça? Écoute, on commence tout de suite avec Nissan, qui a fait l'actualité cette semaine pour plusieurs raisons. Oui. Et la première, c'est pas une nouvelle très, très encourageante, parce qu'on est allé, on a passé le couperet. Mais solidement à travers l'entreprise. Là.
Oui, et particulièrement à Barcelone, où on a décidé de carrément fermer l'usine qui elle, employait 3000 personnes. Donc, c'est difficile d'avoir plus drastique comme mesure, finalement.
Ouais.
Donc, ça se passe très mal à l'échelle mondiale pour Nissan. Ça se passait mal avant la pandémie, mais là, on dirait que les constructeurs qui avaient les reins moins solides, ben ont un petit peu plus de misère à passer à travers cette crise-là. Donc, le plan stratégique, c'est de réduire environ 20 % de sa capacité mondiale. Donc, on va gérer une décroissance, finalement.
Il faut dire que Nissan était devenu maître dans l'art de fournir des véhicules au parc de location, aux entreprises comme ça.
Et tu te nuis à toi-même. Là, on en avait parlé avec le président de Nissan Canada, ici même. Tu nuis à la valeur de revente de tes véhicules et tu fais pas tant d'argent en vendant ces véhicules-là au parc de location.
Non, c'est ça. Tu gardes tes employés à flot, ça, c'est correct, mais en même temps, est-ce que c'est réellement payant? C'est une autre histoire. Puis, c'est surtout que si tu en fais trop, ça affecte la perception que les gens vont avoir du produit comme tel. Alors, on a coupé, évidemment, bon, tu le disais, l'usine est fermée. À l'échelle nord-américaine, par contre, il n'y a aucune usine qui est fermée, mais on va réduire le nombre de véhicules qu'on va fabriquer selon l'usine entre 20 et 25 % d'un endroit à l'autre. C'est quand même pas rien. Alors, des usines comme on a à Smyrna, au Tennessee, du côté des États-Unis, ben vont elles aussi subir des coupures sans toutefois que ce soit aussi drastique que du côté de Barcelone. Puis il faut savoir que Nissan aussi retarde l'arrivée de certains de ses produits. Oui. On attendait d'ici quelques semaines à peine, c'est tout dire, l'arrivée du nouveau Rogue qui va être retardée un petit peu. La Versa berline, on s'attendait à ce qu'elle arrive en juin, ça ne sera pas le cas.
Même la Sentra, là,
La Sentra vient d'arriver.
Oui, mais c'était retardé, ça aussi. Et avant d'en vendre, ça va prendre un moment aussi, là.
Mais c'est une voiture qui vaut la peine d'être considérée, honnêtement.
Et encore plus considérant le contexte économique, là,
ouais. T'sais,
peut-être que d'aller chercher une voiture, entre guillemets, le beau, bon, pas cher, ça va peut-être convenir à plus de gens qu'il y a un an, finalement.
Voilà. Bon, Nissan a aussi fait l'actualité cette semaine parce qu'on a, sans dévoiler officiellement la voiture, on a laissé entrevoir le futur de la marque à travers des sketchs automobiles filmés, que ce soit filmé de façon réelle ou de façon simulée. Bref, on était capable d'apercevoir les prochaines générations d'une gamme complète de véhicules que moi, j'ai pu voir du côté du Japon.
Et si vous regardez la vidéo, là, je vous le dis tout de suite, c'est assez sombre. Là.
C'est très sombre. Vous ne serez pas capable de distinguer. Là.
Ouais, on voit la silhouette grossièrement. On voit les phares qui sont à peu près tous repris sur les mêmes... Sur les véhicules, mais sinon, faut s'imaginer le reste.
Mais pensez à une prochaine génération de Pathfinder qui va être un véhicule avec un look un peu plus costaud, un nouveau Murano qui va avoir une sacrée belle gueule, nouvelle camionnette Frontier qui devrait arriver probablement l'année prochaine. Et ça, c'est un camion développé pour le marché nord-américain. Il n'est plus question d'utiliser une camionnette qu'on utilise à l'échelle mondiale, donc de se baser sur le Navara qui existe ailleurs pour vendre ça ici. Ça ne sera pas le cas. C'est un camion qui va être bâti pour le marché nord-américain avec un look très américain, merci.
Parce que toi, tu l'as vu.
Moi, j'ai pu le voir. Donc, nouveau Titan, nouveau Armada. Il y a beaucoup de produits. Évidemment, celle qui a fait le plus jaser, c'est la nouvelle Z.
Oui, et on met l'emphase sur elle dans cette vidéo-là.
Ouais.
Et on fait un petit zoom zoom-in sur le Z, finalement.
Est-ce qu'on aperçoit vraiment, lorsqu'on regarde ces images-là passer rapidement, des images qui, en passant, vous pouvez les voir sur le site guideautoweb.com parce que notre collègue Guillaume Rivard a publié un article à cet effet-là cette semaine. Ce sont essentiellement c'est la voiture que j'ai pu apercevoir, moi, du côté du Japon. Donc, des lignes très épurées, une partie arrière qui est encore plus élancée. Et ce qu'on m'a mentionné du côté du Japon, c'est qu'on conserverait la plateforme de la voiture actuelle parce qu'il n'est pas question qu'on développe une nouvelle plateforme pour
c'est
très cher à développer, mais qu'on ferait appel, même si on ne l'a pas dit de façon officielle, au moteur de la Q50 ou Q60 Redline, qui est un V6 biturbo de 400 chevaux.
Oui, donc c'est correct.
Ça devrait être relativement agréable comme machine. On n'a pas mentionné s'il y aurait de boîte manuelle, automatique.
On n'est pas rendu là.
Il n'y a pas de détails. Mais on sait qu'il y a une prochaine génération de Z qui s'en vient. Par contre, on n'a rien confirmé pour la GTR.
Ben, c'est ce que j'allais dire, parce que dans cette vidéo-là, il n'y a rien qui laisse imaginer... Dans le lot de voitures qu'on voit, il y en a une qui pourrait être la GTR de nouvelle génération.
Non, effectivement.
Alors, est-ce que on va le...
Si vous la regardez comme il faut, cette vidéo-là, vous allez aussi apercevoir un 4x4 qui a un look assez off-roader, merci. Ça laisserait peut-être présager le retour d'un Xterra ou de quelque chose du genre qui viendrait rivaliser avec un Wrangler ou avec le prochain Bronco.
Ouais.
Là, c'est de la pure spéculation.
Allez pas dans un concessionnaire Nissan lundi matin.
Mais en même temps, ça serait logique. Et si on est outillé chez Nissan pour pouvoir offrir un produit comme ça, parce qu'on ramène aussi une camionnette Frontier, donc en utilisant le même châssis, les mêmes mécaniques, ça pourrait être logique de le faire, je pense qu'on pourrait avoir des belles surprises chez Nissan dans les prochaines années. Il y a aussi le Qashqai qui va se renouveler prochainement. Mais remarquez que ce que vous voyez dans cette vidéo-là, il n'y a pas de voiture, là.
Non.
C'est des camions.
Voilà. Et dernier mot peut-être sur la Z. J'ai remarqué que son capot était pas mal plus long, ou du moins paraissait plus long que celui de la 370Z actuelle. Est-ce qu'on veut ressembler aux anciennes 240, 280 et compagnie? Peut-être. J'y vois même un petit look de F-Type, là, par exemple, avec un long museau.
Oui, absolument.
Donc, c'est intéressant.
Puis on remarque que les ailes avant sont très plates, ne sont pas bombées comme c'est le cas actuellement. Le capot est très plat, très large. La voiture donne l'impression d'être encore plus basse avec des voies plus larges. Ça va donner une machine qui va être intéressante, mais qui est quand même évolutive par rapport à ce qu'on connaît en ce moment, en espérant que la finition soit un petit peu mieux.
Ça peut pas être pire.
Ça serait bien. Bon, on va parler du GMC Hummer électrique qui n'est pas prêt d'arriver, mais on a quand même dévoilé un petit truc cette semaine à son effet.
Oui, parce que, lui aussi, hein, sa présentation, son dévoilement a été repoussé, mais on a...
Et pour votre gouverne... on ramène le nom Hummer à travers la filiale GMC.
Voilà.
Et ça sera un utilitaire pleine grandeur, 100% électrique.
Oui, donc on nous l'a pas dit aussi correct que ça, mais ça va être un comparable au Cybertruck de Tesla, par exemple.
Voilà.
Donc, étant donné qu'il va être 100% électrique. Mais ce qu'on nous a dit, c'est qu'il allait avoir un toit amovible, translucide, donc en verre, un T-top, là. Tu sais, si vous êtes fan de Burt Reynolds, là, il va avoir un T-top à l'avant, T-top à l'arrière. Donc, ça va être particulier.
Fait que si t'es un fan de Burt Reynolds et de Schwarzenegger, c'est le véhicule parfait.
Voilà. Hein? C'est l'aboutissement.
Genesis qui continue de faire jaser avec un nouveau véhicule, mais qui n'est pas arrivé sur le marché et surtout où on va l'acheter. Ça non plus, c'est pas clair. Mais bref, on a dévoilé...
Parce que le Carrefour Laval, lui, est toujours pas ouvert.
Ça sera pas là.
Non, exactement. Bon. Donc, le GV80, qui est le premier VUS finalement chez Genesis, que t'as eu la chance de voir, pas de conduire, je pense, mais de voir en tout cas.
Ouais.
Et là, on nous a dévoilé l'échelle de prix. Ben, il n'est pas donné. Hein? Ça, il n'y a pas de doute. La version de base, là, donc le GV80, version Select, c'est 64 500 $ Et c'est un 4 cylindres turbo. Hein? C'est la mode de 300 chevaux. Et après ça, on a une version milieu de gamme à 70 000 $ Et au sommet, ben, on a une version 3.5T Advanced qui, elle, est à 80 000 $
On a l'intention de vendre ça aux États-Unis, bref.
Oui, voilà.
C'est ce que ça veut dire. Parce voilà. Que, autrement dit, je veux dire, je pense qu'on...
Moi, j'en ai vu un sur une...
Parce que cette échelle de prix-là
ouais.
ne cadre pas assez ben bien non. avec ce qu'on propose chez la compétition.
Ben non.
Le GV80 veut se situer, disons, en comparaison avec un Mercedes GLE, avec un BMW X5, mais personne n'offre de 4 cylindres dans ces segments-là. Et pour arriver à un V6, ben là, on est à 80 000 $
Ouais.
Mais qui va débourser 80 000 $ pour un produit comme ça, quand pour moins cher, tu vas aller chercher un Acura MDX, quand tu vas aller chercher ouais. Un Lexus...
Ben, c'est, bon, ouais, ou même les Américains. Là,
ben, les Américains, absolument. Là. Donc, c'est très audacieux comme échelle de prix.
Je m'attendais à ce que... Oui, c'est audacieux, mais je m'attendais à ce qu'on soit agressif.
Et c'est pas le cas.
Et c'est pas le cas.
C'est pas le cas, mais moi, j'ai vraiment l'impression... Que,
on vise les Américains. Ouais.
On va cibler les Américains parce qu'évidemment, avec le taux de change, c'est défavorable. Et bon, ceux qui veulent vraiment l'acheter le feront. Mais j'ai l'impression que la grosse majorité va se retrouver aux États-Unis. Ça, c'est d'une évidence. Un mot sur la Civic Type R. Écoute.
Oui, on a présenté il y a quelques semaines une version édition limitée.
Une version jaune.
Une version jaune avec des roues différentes puis qui est allégée. En gros, là, c'est ça, c'est caractéristiques. On a fait le tour assez vite. On en allouait 100 pour le Canada et ben, plus tôt cette semaine, on a ouvert le carnet de commandes sur le site de Honda Canada. Puis en 4 minutes, tout était réglé. Comme quoi, la pandémie fait mal plus à certains qu'à d'autres, visiblement.
Permets-moi de te dire que...
Tout ça sans savoir le prix.
Oui, mais permets-moi de te dire que parmi ce carnet de commandes-là, il y a une majorité qui sont des concessions, qui ont commandé dans le but d'avoir cette voiture-là
voilà,
à
parce
mettre
que ça va
en vitrine.
Ça va attirer l'œil, tu l'as dit, ben elle est jaune, mais...
Et ça demeure une sacrée machine de performance.
Ah, mon Dieu, oui.
Bon,
oui,
ça accroche l'œil, là, ça c'est clair, mais ça demeure une voiture sport compacte extrêmement compétente. Puis ceux
à
qui
roue
ont...
motrice avant.
Oui, et pas d'effet de coupe.
Voilà.
Moi, c'est la chose qui m'impressionne le plus sur cette voiture-là.
Parce que les concurrentes sont quatre roues motrices. Là.
Plus de 300 chevaux sur les roues avant et pas d'effet de coupe, c'est quand même quelque chose. On parlait de suppression de postes tantôt du côté de chez Nissan. C'est aussi le cas chez McLaren.
Oui, exactement. Donc, 1200 emplois qui ont été supprimés. Donc, on pourra imaginer que quand on est dans des manufacturiers de véhicules exotiques et on s'adresse à un public très, très, très niché, ben qu'il y a une pandémie mondiale, ça affecte ou pas du tout. Ben oui, là, ça les affecte, il n'y a aucun doute. Et ben McLaren était impliqué aussi en Formule 1. Et ben, je sais pas si vous avez écouté un Grand Prix cette année, mais c'est pas des Grands Prix de l'année 2020. Hein?
Non.
Fait que, donc, c'est un petit peu plus compliqué, mais il n'y a pas de doute que si l'économie venait à reprendre comme elle était, ben les gens vont recommander des McLaren, peu importe le prix qu'elles seront. Mais pour le moment, il y a toujours 1200 employés qui, eux, ont perdu leur emploi.
Ça n'a pas empêché notre ami Luc Poirier, qui était assis ici il y a quelques mois, de se procurer cette semaine ou la semaine passée une Senna.
Une Senna, hein? Voilà. Donc,
rien de trop beau. Une voiture quand même...
Je pense qu'il va passer un bel été.
Oui, je pense que c'est assez exceptionnel comme machine. Je vous parle brièvement du véhicule que j'ai conduit cette semaine.
Ouais.
Véhicule pour lequel j'avais pas vraiment d'attente, mais qui en même temps représentait pour moi une curiosité parce qu'il vient directement rivaliser avec le Tesla Model X, mais dans une formule, bon, disons-le, plus élégante avec un niveau de finition nettement supérieur, pour un prix qui est moindre. Mais pour une autonomie et des performances qui sont moindres aussi, je parle évidemment du Audi e-tron. Et là, non, on ne s'étale pas sur le nom. On a assez entendu parler. Ce véhicule-là, m'a toujours plu depuis son arrivée pour son look, pour sa présentation, son format. L'habitacle, c'est exceptionnel, là, le niveau de finition là-dedans. Je vous dirais que celui que j'ai conduit m'a laissé sur mon appétit parce que c'était blanc, intérieur noir. Ça n'avait rien de très particulier au niveau du look. Parce qu'on croise de temps en temps des modèles bleus à
croix, oui,
là,
voilà.
C'est la couleur de lancement.
On les voit de loin, là.
Et ça, ça en jette quand même. Mais honnêtement, c'est un produit qui m'a déçu parce que, d'abord, le poids de ça est ridiculement élevé. On parle de 2000...
Et tu le sens tant que ça?
Ah, Seigneur, t'as l'impression de conduire un ancre à bateau. C'est 2500 kilos, ce véhicule-là. Là, okay. On parle du poids, d'un poids plus élevé qu'un Chevrolet Suburban. Okay.
Dans un format qui est beaucoup plus
petit. Dans un format intermédiaire. Là. Pour vous donner une idée, là, on parle du format entre un Ford Edge et un Ford Explorer. Ouais. Dans ces coins-là. Véhicule qui est un 5 passagers, évidemment. Sacré belle gueule, mais très, très, très lourd. Et ce que ça a comme impact, c'est que ça a consommé à peu près 28-29 kWh au niveau de la consommation d'énergie. Pour une autonomie annoncée à 329 km, moi, dans les conditions auxquelles j'étais, j'ai eu un maximum d'autonomie affiché à 288 lorsque j'étais en pleine charge. Il fait beau, c'est rendu l'été, il n'y a plus de raison d'être pénalisé.
Non.
Donc, ce n'est pas l'autonomie d'un modèle X, c'est certain. Et en plus, j'ai trouvé que, hormis le fait qu'on est installé à bord d'un carrosse royal, au niveau de la présentation, au niveau de comment c'est organisé à l'intérieur, j'ai été déçu par la conduite. Et ça, c'est rare chez Audi.
Oui,
d'habitude, on a une direction qui est précise, on a un véhicule qui est inspirant côté comportement. Là, le poids vient handicaper le plaisir de conduire.
Parce que c'est un véhicule qu'on a développé à la va-vite ou...
Non, mais vraiment, je veux dire, on a voulu développer un véhicule électrique. On est arrivé avec une formule qui est réussie, mais t'as pas l'impression d'avoir l'ADN d'un Audi quand tu conduis ça.
Okay.
J'ai conduit un Q3 il y a quelques semaines. Oui, c'est plus petit. Oui, c'est un véhicule à essence, mais... La précision de la direction, le plaisir de prendre un virage avec un Q3, puis c'est pas une voiture sport, un Q3, là, on ne retrouve pas ça dans un e-tron. Parce que le véhicule est très lourd, parce qu'il est gigantesquement chaussé, parce que la direction, il y a une espèce de flou à ce niveau-là. Et la puissance du moteur électrique, évidemment, il y a différents modes de conduite, là, mais même en mettant ça en mode performance, c'est pas particulièrement rapide. On est loin, loin, loin des performances d'un Model X. Alors, est-ce que je choisirais ça avant un Model X? Probablement parce que je ne paierais jamais 200 000 pour un Model X qui offre le niveau de performance qu'il va offrir. Puis parce que je le trouve plus beau, parce que la finition est meilleure.
Mais qui achète ça, un e-tron? Est-ce que c'est quelqu'un qui avait un Q5? Est-ce que c'est quelqu'un qui avait un Q7 qui veut faire un saut vers l'électrique?
Il faut quand même considérer que c'est une marche qui est quand même assez haute. Parce qu'on parle d'un véhicule qui part à juste en bas de 100 000 $ Et là, on ajoute des options. C'est quand même un véhicule coûteux et pas besoin de te dire que c'est pas éligible au crédit gouvernemental.
Non, rendu à
ces prix-là, il n'y en a pas de...
Tu t'arranges avec tes troubles.
Est-ce que tu l'achètes pour faire un geste environnemental? Peut-être. Est-ce que tu l'achètes parce que tu vas avoir un véhicule électrique, parce que tu veux goûter à ça? OK. Mais la facture est quand même considérable. Et moi, je t'avoue que je prends beaucoup plus de plaisir à conduire un Q7 qu'à conduire ce véhicule-là. Je parle vraiment au niveau comportement routier.
Ouais.
Puis même au niveau puissance, tu sais, Audi, on a des transmissions qui sont efficaces. On a des moteurs qui sont à la fine pointe. Le moteur 3 litres qu'on utilise chez Audi, je l'adore. Évidemment, ça ne consomme pas d'essence. Voilà l'avantage, là, tu me diras.
C'en est un,
puis c'est un véhicule vert et c'est pas un véhicule, lorsque tu le regardes, qui a l'air d'une navette spatiale.
Voilà.
Ça a quand même une belle gueule. Tu ne peux pas nécessairement deviner que c'est un véhicule électrique. Et pour ça, je l'apprécie beaucoup.
Comme la e-Golf dans la même famille.
Ouais. Donc, et qui viendra rivaliser avec ça, bien évidemment, c'est ce qui va arriver prochainement du côté de chez Mercedes. L'utilitaire électrique Mercedes est retardé. J'étais allé voir ce véhicule-là, moi, du côté de l'Europe. Là, le nom m'échappe. Mais j'étais allé voir ce véhicule-là du côté de l'Europe il y a un peu plus d'un an. Et là, on a retardé l'arrivée de ce modèle-là. Chez BMW, il n'y a pas de concurrent direct qui arrive là parce que, oui, on a un X5 enfichable hybride, mais on n'a rien de 100% électrique pour l'heure. Alors, qu'est-ce qu'on va avoir comme concurrence directe? Ça sera évidemment le Model X et le Mercedes-Benz qui va arriver probablement d'ici un an. Mais pour l'instant, Audi réussit quand même à vendre quelques unités de ce modèle-là. Chaque véhicule qui rentre sort immédiatement.
Oui, j'allais dire, les concessionnaires ne doivent pas avoir une allocation énorme.
Il n'y a pas d'inventaire. On en voit sur la route. Donc, c'est quand même signe d'un succès.
Si on va se promener à Ville-Mont-Royal, on en voit.
Puis je te dirais aussi que par rapport à Tesla, ben, on a l'avantage d'avoir un réseau de concessionnaires sérieux, d'avoir un service après-vente, d'avoir une garantie qui est sérieuse. Ça, c'est quand même un point qu'il faut considérer. Et je veux dire, autant les voitures Tesla sont, à mon avis, très jolies, incluant le nouveau modèle, bon, j'ai un blanc, le petit utilitaire. Là.
Le Y.
Oui. Alors, autant le modèle Y est réussi sur le plan esthétique, le modèle X, j'ai toujours trouvé qu'on l'avait échappé côté look. Et Audi a cet avantage-là. Mais je ne peux pas dire que j'ai été impressionné par le comportement, par l'autonomie et par la consommation de ce véhicule-là. Parce qu'il faut quand même parler de consommation d'énergie avec un véhicule électrique. Et à presque 30 kWh, c'est pas mal d'énergie pour un véhicule comme celui-là. Ça consomme un peu plus qu'un Jaguar I-Pace, pour vous donner un exemple.
Ouais.
I-Pace qui pourrait être considéré comme un rival, mais qui a un comportement diablement plus intéressant.
Okay.
Le I-Pace est vraiment une machine agréable à conduire, plus rapide, plus performante. On a plus de plaisir au volant, mais c'est moins pratique. C'est peut-être... C'est plus excentrique comme design aussi.
Oui, alors, pas mal.
Quelqu'un qui veut quelque chose de plus classique, le e-tron est là.
Quand l'e-tron est arrivé au Canada, le premier propriétaire à en prendre possession, c'est un type RV Soicher qui vit en Colombie-Britannique.
Okay.
Et lui, il avait comme projet de parcourir le Canada d'ouest en est avec son épouse qui était qui est morte trop jeune. Et en son honneur, il a décidé avec son e-tron de partir à l'aventure au Canada. Et il avait convaincu Audi de recevoir finalement le premier e-tron à arriver. Et c'est ça.
Et il est à la veille d'arriver à Montréal?
Non, ça fait plusieurs mois même de ça. Et il était effectivement là, bleu toile de piscine. Voilà.
Pas évident de se recharger à Calgary, par exemple. Les bornes de recharge sont un peu plus rares de ce côté-là.
Le guide de l'auto. Avec Antoine Joubert et Germain Goyer.
Germain, avec nous cette semaine, Patrick Boudreau, coordonnateur marketing et aux communications chez Protex Canada. Et non, Protex, ce n'est pas une marque de condom. Hein?
Non. Ça sert à protéger aussi, mais protéger tout autre chose.
Protéger tout autre chose, en l'occurrence un véhicule. Et c'est pas mal ce dont on parle généralement dans cette émission.
C'est un thème plus approprié.
Voilà, au Patrick,
guide de l'auto.
Bonjour.
Bonjour, messieurs.
Bienvenue parmi nous.
Alors, évidemment, on voulait vous parler parce que, Protex, on le sait, c'est une pellicule protectrice transparente qu'on vient appliquer. En fait, Protex est une entreprise qui se spécialise là-dedans, et c'est une pellicule protectrice transparente qu'on vient appliquer sur la peinture qui ne paraît à peu près pas. Et ça protège les voitures, particulièrement au Québec, contre les éclats de roche, contre les égratignures, tout ce que tu voudras.
Mais quand on dit qu'il ne paraît à peu près pas, là, ça paraît vraiment pas, là. Il faut vraiment avoir le nez collé dessus pour l'avoir. C'est très, très, très discret comme produit, là.
Mais ce qui est intéressant, c'est que c'est un produit en très forte augmentation. Et Patrick, première question que j'aurais pour vous, c'est d'abord, comment on développe un marché comme celui-là? Parce que c'est sûr que les besoins, on crée un besoin au Québec avec un produit comme celui-là, étant donné la condition de nos routes, étant donné les hivers rigoureux qu'on a. Mais en même temps, c'est une chose de le faire connaître, c'est une autre chose de le vendre. Alors moi, je suis curieux de savoir quel a été le plan stratégique de Protex pour dire, OK, on ouvre les vannes et on réussit à aller rejoindre le plus grand nombre de gens possible, parce qu'aujourd'hui, vous avez combien d'ailleurs de succursales au Québec?
Bien, écoute, au Québec, on a une vingtaine de succursales.
Okay.
Et si on parle d'au Canada au complet, on en ajoute en Alberta et en Colombie-Britannique, on en ajoute 8. Donc, on est à 28 succursales. C'est qui donne du service, je dirais, d'environ une cinquantaine de municipalités au moins au Québec et Canada. Là.
OK. Et bon, évidemment, ce produit-là que vous utilisez, ça s'appelle le X-Pel. C'est une pellicule qui est assez, quand même assez efficace que j'ai fait appliquer, moi, sur plusieurs de mes véhicules dans le passé. Et je vais le refaire la semaine prochaine sur un véhicule que je viens de faire repeindre parce qu'on sait que les peintures... Quand tu fais peinturer une auto en passant, la peinture, c'est comme de la porcelaine.
Hein? Oui, c'est très
fragile. C'est très fragile. C'est pas la peinture d'une voiture d'origine. Alors, c'est doublement important de faire ça pour protéger ta voiture parce que c'est toujours quand tu viens de sortir de la paint shop que tu suis un camion Ben qui te garoche et tout ce que tu veux pas avoir sur toi.
Ou qu'il y a un carrosse qui glisse tranquillement vers ta voiture à l'épicerie.
Voilà. Alors, Patrick, c'est ça. Moi, la question que j'ai pour toi, c'est comment on développe ce marché-là et comment on approche la clientèle pour faire découvrir ce produit-là?
Bien, ça s'est fait graduellement, c'est sûr que ça. On n'a pas passé de 0 à 100 en 0,1 seconde. Ça s'est fait graduellement. Énormément au début par bouche à oreille, je dirais, parce que je veux pas. Il suffit d'une personne convaincue pour ensuite en parler à deux autres personnes, à trois autres personnes, à cinq autres personnes, à dix autres personnes. Et les résultats sont assez rapides et sont assez faciles à voir, surtout quand on sait à quel point ça peut être dispendieux de repeinturer des parties de son véhicule. Puis Dieu sait que les fanatiques automobiles, moi j'aime ça quand mon véhicule est propre, j'aime ça ça m'énerve voir un spot de rouille, ça m'énerve voir une graphing, ça m'énerve voir que la peinture est sandblastée, excusez-moi l'expression. Ouais. Donc c'est sûr que c'est pas long de comprendre que ça ajoute un gros bonus et d'un à la valeur de revente de notre véhicule, puis de deux, mais juste au côté esthétique. Donc, ça s'est fait un client à la fois, c'est sûr. Les médias sociaux, on a approché évidemment des journalistes automobiles comme vous. C'est sûr qu'on a fait notre marque les salons de l'auto. Sont d'autres bons exemples, le salon du véhicule électrique, le salon de l'auto de Montréal, le salon de l'auto de Québec. Donc, c'est sûr que c'est... Je dirais que ça s'est fait.
J'aime ça parce que vous venez de nommer une série d'événements qui n'ont pas lieu cette année.
Oui, à part le Salon de l'Auto de Montréal qui, lui, continue de dire qu'il va avoir lieu. Là. Bon.
Ouais. Fait que c'est pour ça qu'il y a des tribunes pour en parler.
Oui, voilà.
Parce que les événements, ouais, ça va être un peu plus difficile.
Oui, ça fait mal cette année, en effet. Là.
Bon. Maintenant, cette fameuse pellicule-là, là, les gens pensent qu'on installe ça comme de la vitre teintée puis on découpe ça à l'exacto. Mais
puis
y a
on pose ça avec un séchoir maison.
C'est
là.
Ça. moi, je trouve ça intéressant parce qu'il y a toute une technologie qui va autour de ça. Parle-nous de ça un petit peu.
Ben, écoute, ça a commencé, comme tu l'as dit, en fait, pratiquement. Donc, c'était juste des gros rouleaux de matériel. On appliquait ça, c'était découpé à l'exacto, pas toujours dans des façons très glorieuses. Maintenant, nous, avec les produits...
En ne graffignant jamais la peinture de la voiture, faut le mentionner.
Jamais. Donc, nous, on travaille avec la compagnie X-Pel, donc on offre tous leurs produits et ils ont développé leur propre programme de découpe numérique. Ce qui veut dire que pour chaque véhicule qu'il y a sur le marché, on est capable d'avoir tous les patrons de découpe de toutes les pièces qu'on a besoin pour les recouvrir, que ce soit partielle ou complète.
Donc, si moi j'achète demain matin une Volkswagen Jetta flambant neuve et que je décide de faire appliquer ce type de produit-là, il n'y a pas un technicien qui va se rendre au concessionnaire, par exemple, et qui va se mettre à découper sur place le rouleau. Ça va arriver pré-découpé et lui ne va avoir qu'à l'installer, finalement.
Ben, en fait, on a des unités qui sont 100% mobiles, donc qui ont une découpeuse à l'intérieur. C'est des camionnettes Sprinter. Donc, on a certains techniciens qui se déplacent avec ça. Il y a d'autres techniciens qui vont vraiment partir de la shop, donc de la succursale avec leur kit prédécoupé pour aller faire le travail chez le concessionnaire ou dans une vitrerie ou quoi que ce soit. Là. Donc, on utilise les deux méthodes. Soit vraiment, on découpe sur place et ou on découpe au magasin et ensuite, on part avec nos kits prédécoupés pour aller sur la route.
Bon, on connaît évidemment les avantages d'installer une pellicule comme celle-là sur un capot. Et ça vient en quelque sorte voler des parts de marché, si je peux m'exprimer ainsi, aux déflecteurs de capot qui sont beaucoup moins populaires qu'à une certaine époque.
Ça vieillit pas toujours bien non plus, un déflecteur de capot.
Ben, regarde, il y a eu une époque où c'était des brassières qui se vendaient.
Oui, puis ça non plus.
Il n'y en a plus beaucoup non plus.
Non.
mais c'est un produit qui gagne en popularité. Maintenant, faire que le capot, c'est une chose, mais vous faites des devants complets de véhicules, vous faites des voitures complètes, vous faites des phares, vous faites même, dans certains cas d'exception, des vitres. Alors, c'est, la limite, elle se situe où?
Bien, en fait, elle se situe, tant que la surface est lisse et non corrugée, comme exemple les plastiques pivelés qui sont généralement sur le bas de case, affaires comme ça, ça, ça colle pas, la véhicule adhère pas là-dessus. Mais sinon, si c'est lisse, ça colle. Donc, que ce soit les intérieurs, les moulures intérieures d'un véhicule, que ce soit l'écran tactile, que ce soit...
OK, donc on se limite vraiment pas à l'extérieur du véhicule. Là. Il y a moyen d'aller protéger des pièces intérieures aussi.
Oui, tout à fait. Oh, oui, oui. Wow. Donc, on en fait souvent. Exemple, je vais prendre un exemple, les Tesla, qui ont vraiment un très gros écran tactile. Donc, sur ça, on peut appliquer... une pellicule pour justement empêcher d'endommager cet écran-là, les moulures qui sont lustrées, les moulures de style bois un petit peu sur le...
Quand tu as commencé ta phrase, tu as dit les Tesla qui ont un très gros, je pensais que tu allais dire un très gros problème de peinture qui lève. Ça aussi,
parce
ça peut être
parce
pratique.
Que j'étais sur le point de dire ça. Une Tesla, on pourrait tout simplement faire un wrap sous vide pour l'ensemble de la voiture à l'exception des pneus, puis là, on se sentirait protégé.
Voilà.
Parce que je pense que Tesla est un très, très gros client de Protex, avec raison. La majorité des gens qui s'achètent une Tesla Model 3 aujourd'hui sont conscients ou inconscients du problème de peinture que cette voiture-là a, mais oui, accepte vraiment de vivre avec ça. Et puis, la solution, parce que c'est certainement pas Tesla qui l'a trouvé, ben, c'est d'appliquer cette pellicule Protex pour empêcher que la peinture parte au vent là, ou dans le lavoto.
Exactement. Ben, oui, écoute, en plus que la communauté Tesla est quand même une communauté très, je dirais, engagée, une communauté très active, que ce soit sur les médias sociaux, dans
c'est
les
un euphémisme de le mentionner.
Oui, donc c'est sûr que le mot s'est passé vite. Quand il y a un problème, il y a une solution à ce problème-là, donc c'est sûr que les gens se font plaisir même d'en parler, qui ont fait protéger leur Tesla parce qu'ils savent que maintenant ils ont l'esprit tranquille, parce qu'ils ne veulent pas. Avec la qualité de peinture qu'il y a là, j'ai vu des véhicules avec un très bas millage, puis déjà des dommages, malheureusement, assez...
des dommages assez irréversibles. Assez sérieux, là. Ça prend une peinture, c'est sérieux. Ouais, ouais.
Mais justement, quand on parle de dommages, dis-moi, Patrick, quelqu'un à la maison qui aurait une voiture avec qui a une pièce qui serait, en bon français, stone-chippée ou un début de rouille de surface... est-ce qu'on peut aller appliquer quand même la pellicule Expel pour limiter les dommages ou il est rendu trop tard finalement?
Ben, la pellicule va, excusez-moi l'expression, arrêter l'hémorragie. Donc c'est sûr qu'un coup appliqué, elle va empêcher que des dommages après ça se passent. Malheureusement, la pellicule est 100% transparente comme on disait au début. Donc c'est sûr que tout ce qui est défaut en dessous de la pellicule va quand même paraître. C'est sûr que ça va...
Il n'y a pas une couche de fond de teint, là.
Non, exactement. Donc, ça, on conseille de passer voir soit un carrossier ou un professionnel en esthétique. Des fois, un simple polissage va enlever une petite couche désagréable qui va faire en sorte qu'une fois la pellicule appliquée, les défauts présents paraîtront pas trop. C'est sûr que dans des cas plus sérieux, ben, on va demander, on va conseiller au client plutôt de soit d'avoir un système touch-up et ou justement d'avoir recours carrément au repeinturage de la pièce, si je peux dire ça ainsi.
Est-ce que, bon, de ce que je comprends, vous avez évidemment des services où vous vendez à travers les concessionnaires lorsque les gens achètent un véhicule neuf. Donc, c'est un produit qu'on peut faire installer chez le concessionnaire, probablement moyennant une surprime du concessionnaire. Mais vous le faites, vous aussi, dans vos propres ateliers. Alors, ça fonctionne comment? Et quelle est la proportion de vente de votre côté?
Proportion de vente, c'est une excellente question parce que ça va varier d'une franchise à l'autre en fonction de son secteur. Je dirais qu'il y a certains endroits, c'est 50-50, donc 50% de retail et 50%
concessionnaire.
Il y a d'autres franchisés qui sont vraiment axés, je dirais quasiment pratiquement 90% sur le concessionnaire.
Okay.
Donc, c'est assez variable, mais oui, on offre ce service-là partout. Il y a plusieurs concessionnaires offrent nos produits, oui, moyennant un certain surplus, mais il faut comprendre que à ce moment-là, eux autres le financent. Ils offrent un service clé en main aussi. Donc, le client, quand il se présente chez le concessionnaire, qui prend possession de son véhicule, tout est fait. Donc, c'est comme j'ai dit, c'est clé en main. Il n'y a pas à se casser le bessic à prendre un rendez-vous chez nous, se déplacer, perdre plus de temps, entre guillemets. Non, c'est sûr que la minute que le véhicule prend la route, il est déjà protégé.
Maintenant, c'est intéressant de mentionner ça parce que les concessionnaires qui vendent ce produit-là vont souvent le faire pour des gens qui, par exemple, vont louer une voiture pour une période de 4 ans. D'acheter un produit comme celui-là, bien, ça va empêcher d'avoir des dommages sur le véhicule lors du retour de location et d'engendrer des frais de réparation supplémentaires. Mais est-ce que ce produit-là a une durée de vie indéfinie ou est-ce qu'il y a une garantie qui vient avec ce produit-là? Comment ça fonctionne?
Ben, Expert garantit son produit 10 ans. Donc, 10 ans sur l'apparence du produit. Donc, le jaunissement, le ternissement, craquement, la délamination de la colle. Donc, vraiment, tout ce qui est au niveau de l'apparence est garanti 10 ans. Chez Protex, on pousse l'installation et la garantie à vie. Donc, okay. Donc s'il y a un coin qui venait à décoller, s'il y avait un défaut d'installation avec un installateur qui serait, mettons, moins expérimenté et que ça cause un défaut dans la pellicule, ben c'est sûr qu'on se porte garantie et on remplace la pièce.
Si, par exemple, c'est moi qui installais la pellicule, voilà. Ça
sur
garantie.
Ma voiture, ben là, c'est ça.
Ouais,
et,
c'est ça.
Et bon, j'imagine qu'il y a une multitude de facteurs, dont le nombre de panneaux de carrosserie qu'on choisit et la taille du véhicule. Mais grosso modo, l'échelle de prix, ça ressemble à quoi?
Ben écoute, on peut commencer avec des ensembles partiels, justement, protéger le devant du capot, les coins d'ailes, les miroirs. Si on parle d'un ensemble environ autour de 300 $.
Ça, c'est la base.
Ça, c'est vraiment la base. C'est ce que la majorité des gens ont commencé à faire, même, je dirais, dès le début de l'arrivée du pare-pierre.
Mais encore là, j'imagine qu'il y a une variance. Protéger le capot d'une Smart et d'un Ram HD, c'est pas nécessairement le même prix, là.
Exactement. Donc, c'est sûr qu'on s'ajuste en fonction du nombre de pieds carrés qu'on utilise aussi, wow. La quantité de pellicule. C'est qu'il y a certaines étapes qui demeurent les mêmes, donc le nettoyage, la préparation, la décontamination de la peinture avant. Donc, ça, c'est toutes des choses qui ne changent pas vraiment, mais reste que oui, dans certains véhicules, ben, c'est sûr qu'on va ajuster le prix en fonction de la quantité de travail ou la quantité de matériel qui est nécessaire pour faire le véhicule. C'est sûr qu'après ça, si on parlait tantôt des Tesla qui font bien souvent le devant complet. Donc, on va parler du capot complet, du pare-choc avant, des phares, des ailes avant complètes, des miroirs.
Bas
de caisse. D'un ensemble qui, le bas de caisse aussi. Un ensemble du devant va tourner autour de 1450 $. Après ça, on peut ajouter justement les bas de caisse pour environ 600 $.
Mais comme on sauve en essence, ça se paye tout seul.
Fait qu'une voiture complète, on parle d'à peu près quoi? 3 000, 3
500? Dépendamment des véhicules encore là, je dirais environ de 4 000, puis ça peut aller jusqu'à, si on prend un Mercedes G700 Square, 6x6.
Oui, là, il y a beaucoup de surface, là.
Il y a beaucoup plus de surface, évidemment. Donc, un RAM 3500, double roue à l'arrière, etc., 8 pieds de boîte. Ben, c'est sûr qu'il y a beaucoup plus de matériel.
Parce que vous couvrez aussi les roues.
Non, non. C'est ça.
Ouais. Okay. Pas les roues, mais les grosses ailes bombées, ça, oui.
Ouais, c'est ça.
On est bien fan de ça.
Ce qui est intéressant aussi, c'est que Protex ne se limite pas qu'à cette pellicule-là, qui est très populaire. On est aussi dans la vitre teintée. Et j'ai découvert récemment, et ça, je tenais à en parler, une nouvelle technologie de vitre teintée. Moi, je suis un gars qui, à la base, n'aime pas particulièrement les vitres teintées trop foncées. D'une part, parce que je trouve que ça dépersonnalise le look d'une voiture.
Je les préfère quand elles sont violettes ou jaunes
oui,
pâles.
Ça, c'est magnifique.
Ça, c'est de meilleur goût.
Mais c'est une question de goût personnel. Il y en a qui adorent ça au niveau du look. Mais moi, conduire une voiture avec des vitres noires où je me sens pas...
Ou la visibilité peut-être moins bonne.
La visibilité est réduite. Voilà. Moi, j'aime pas ça particulièrement. Maintenant, j'ai découvert chez vous une pellicule de vitre teintée qui est à peine teintée, mais il y a quand même une teinte légère dedans qui est appréciable au niveau du look, mais qui a l'avantage de repousser la chaleur à un niveau que tu peux pas t'imaginer.
Et ça te parle.
Et ça me parle pour des voitures qui n'ont pas de climatisation comme j'ai. Là, j'adore ça. Ça, j'imagine que c'est un produit qui doit être populaire, là.
Oui, vraiment, surtout justement la clientèle des véhicules électriques, comme on parlait, où veulent réduire l'utilisation de la climatisation, exemple, qui veulent protéger l'intérieur du véhicule, les cuirs intérieurs, les moulures, etc. Donc oui, la pellicule, chez nous, c'est la Prime Expel Prime XR Plus, qui est vraiment la meilleure en fonction de la performance et du look. Donc, elle va bloquer... C'est une pellicule à nanocéramique qui va bloquer jusqu'à 98% des rayons infrarouges. Donc, qui cause vraiment la chaleur du soleil. Donc, même une teinte très légère va bloquer plus de chaleur provenant des rayons du soleil par rapport à des teintes très, très, très foncées dans une pellicule teintée standard régulière. Là.
On aborde le sujet de la vitre teintée. Est-ce que c'est légal de teinter, même s'il n'y a pas de... si ça laisse passer 80, je ne sais pas combien de pourcents de la lumière, est-ce que c'est légal de teinter un pare-brise ici au Québec?
Malheureusement pas. On ne peut pas teinter un pare-brise. La seule chose qu'on peut faire, c'est un...
porter des lunettes soleil.
Oui,
porter des lunettes soleil et un bandeau de 15 cm dans le haut de la vitre.
Ah, oui, oui.
Qui est permis au niveau des lois.
Oui, puis à une certaine époque, c'était même la mode là, d'avoir une couleur. Là. Je me rappelle d'avoir vu un peu de bleu dans le haut des pare-brises. Ça n'a pas toujours bien vieilli, ça non plus. Là.
Non, mais je veux dire, OK.
Mais ça, c'est permis.
Il y a quand même des gens qui vont le faire, c'est-à-dire de teinter leur pare-brise, même si c'est illégal, et honnêtement. Oui. Parfois, c'est à peu près impossible de le remarquer parce que la teinte est tellement légère.
Tout est dans le dosage. Là.
Sauf que ça repousse la chaleur. Fait que c'est un gros avantage.
Exactement, oui. On aimerait ça que ce soit légal, surtout qu'on comprend que c'est des teintes qui sont excessivement pâles, donc qui ne bloquent pas la visibilité, qui n'empêchent pas les autres de voir dans le véhicule aussi, donc qui ne peuvent pas gêner la visibilité du conducteur. Malheureusement, on dirait que le Québec, le Canada n'est pas encore rendu là. Je sais qu'il y a des endroits aux États-Unis que c'est permis jusqu'à certains degrés, mais malheureusement, chez nous, on n'est pas encore rendu là.
Puis moi, j'ajouterais à ça qu'une pellicule de vitre teintée dans un pare-brise qui n'est à peu près pas teintée, donc qui ne gêne pas pour la visibilité, moi, je considère que c'est un élément de sécurité supplémentaire parce que le jour où on a un accident et le pare-brise éclate, ouais. Bien, tu as cette pellicule-là qui vient protéger le conducteur contre les éclats de verre. Parce
exactement.
Qu'elle est évidemment installée par l'intérieur. Fait que moi, en plus, j'aime le fait qu'il y a cet aspect-là qui s'ajoute.
Et on parlait de la visibilité qui est diminuée quand les vitres sont trop teintées, mais quand elles sont teintées de manière normale, là, si on veut, ben, ça permet de pas être ébloui par le soleil et de peut-être prévoir justement une situation malheureuse.
Est-ce qu'on peut rappeler aux auditeurs quel est le pourcentage légal de vitres teintées sur un véhicule au Québec?
Donc, dans les deux portières avant, il faut qu'il passe 70 % de lumière. Donc, les vitres ne peuvent pas être teintées à plus de 30 % incluant la teinte d'origine qui vient à même le verre.
Donc, incluant la teinte d'origine, okay. OK, d'accord.
Oui, parce qu'un verre n'est jamais 100 % clair, il y a toujours une petite teinte dedans. Et malheureusement, dépendamment d'une marque à l'autre, ça varie beaucoup. Donc, j'ai vu des teintes d'origine de 8 %, j'ai vu des teintes d'origine dépassant même la limite légale.
Ah oui?
Dans ce système. Moi, j'ai déjà vu, si je me trompe pas, je crois que c'était une BMW où la teinte à même le verre, je pense que ça faisait quelque chose comme 32 %.
Quand même.
Et si on passe aux portes arrière, finalement?
Aux portes arrière, ben en fait, si on a des rétroviseurs de chaque côté de nos portières avant, on pourrait peinturer nos vitres arrière noires complètes et ça ne changerait rien.
Mais ça jure avec les portes avant, avec les fenêtres avant.
Au niveau look, c'est désastreux. C'est sûr que c'est pas vraiment beau à voir où on voit des vitres. Là, on va mettre limousine à l'arrière et là, on voit qu'ils ne sont pas du tout teintés à l'avant. C'est sûr que c'est pas super joli, malheureusement.
Est-ce que pour une vitre teintée, il y a un entretien particulier à faire? Parce qu'on voit sur les routes des voitures dont les pellicules ont vieilli, sont devenues mauves, les bulles sont sorties. Est-ce qu'il y a un entretien à faire ou c'est juste la qualité du produit comme tel qui fait
la qualité de l'installation.
Oui, la qualité de l'installation, mais aussi la qualité du produit.
C'est bien dit. Ben oui, la qualité de l'installation va jouer pour beaucoup. La qualité du produit aussi. C'est sûr que les pellicules d'aujourd'hui, c'est pas les pellicules d'hier. Il y a eu beaucoup d'améliorations là-dessus. Exemple, les pellicules d'Expel sont garanties à vie transférables. Donc, ils sont tellement certains que leur pellicule changera pas de couleur, changera pas d'apparence, ne fera pas de bulles, craquera pas, qu'ils sont prêts à pousser la garantie à vie de toutes les pellicules qui sont installées professionnellement. Donc, aujourd'hui, comme j'ai dit, c'est plus les pellicules qu'il y avait avant. Le seul entretien, je dirais qu'il faut faire attention, c'est toujours de ne pas utiliser des produits avec de l'ammoniaque. Donc, l'ammoniaque, à la longue, va s'attaquer à la colle, va réussir à passer à travers la pellicule et s'attaquer à la colle qui va créer justement
donc, éviter le Windex.
Oui, voilà.
Exactement.
Éviter le
Windex.
Donc,
un savon doux, une eau, même avec du vinaigre, tout simplement, fait très, 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 très bien la job.
Antoine parlait, bon, d'entretien de vitres teintées. Là, c'est peut-être une question un peu de débutant, mais si on fait recouvrir là, une voiture complète avec le matériel Expel, par exemple, est-ce que ça facilite son nettoyage ou son entretien esthétique?
Ben oui, parce que, exemple, les insectes, la sève, collent beaucoup moins à la pellicule qu'ils vont coller à la peinture. Ça reste que sur la pellicule, c'est un clear coat aussi. Donc, c'est sûr que ça s'entretient exactement de la même façon qu'on entretiendrait sa peinture. C'est-à-dire un savon, une cire. On a même un produit nano-céramique qui s'applique par-dessus, qui va donner un effet hydrophobe et rend une petite couche supplémentaire de protection. Donc, je dirais qu'il n'y a pas vraiment de soins d'entretien particulier à un pare-pierre. C'est même un petit peu plus facile à nettoyer qu'une peinture standard.
Bon, mais fantastique. Merci beaucoup pour votre temps, Patrick. Et évidemment, ben, ceux qui ont besoin d'un produit comme ça savent où se diriger.
Ça s'écrit P-R-O-T-E-X, là. Donc,
ouais. Moi, j'ai fait appel à ce produit-là pour plusieurs de mes véhicules. Et je peux vous dire que aujourd'hui, il y a beaucoup de véhicules, et particulièrement des modèles japonais, dont l'épaisseur de la peinture est tellement mince qu'il s'agit d'avoir un petit éclat de roche et le polissage est difficile à faire parce qu'il n'y a pas d'épaisseur dans les peintures d'aujourd'hui.
Alors que chez les Allemands, par exemple, il y a un petit peu plus de
oui, et encore, on a réduit. Vraiment, les robots aujourd'hui réduisent l'épaisseur des peintures à un niveau presque inimaginable. On ne parle pas de Mitsubishi, de Subaru. Là, je dirais que c'est les pires. Alors, c'est doublement important de faire appel à un produit comme ça. Et l'avantage, évidemment, c'est qu'on la protège de la bonne façon. Ce n'est pas comme un déflecteur de capot où tout va se retrouver en dessous. La voiture va quand même se graffiner. C'est un élément supplémentaire. Bref. Fait, merci beaucoup. Et puis, à une prochaine. Parce que moi, j'achète souvent des voitures. Fait que j'ai souvent besoin de ce genre de produit-là.
Merci beaucoup, Patrick.
Merci, Patrick.
Ça va nous faire plaisir de t'accueillir à ta prochaine visite, mon frère.
Ça marche.
Merci, Patrick.
Bonne soirée. Au revoir.
Pour comprendre les dessous de l'industrie.
De 10 à 11.
Vous écoutez le Guide de l'auto, Cube Radio.
On disait en début d'émission, Antoine, que Nissan a eu une grosse semaine pour deux raisons, mais chez Acura, on a aussi eu une grosse semaine parce qu'on a dévoilé un modèle et bon, ça arrive pas souvent chez Acura. On la teasait depuis longtemps, mais voilà, c'est fait.
Oui, donc la nouvelle TLX, on a appris récemment le retrait de la RLX.
Oui.
C'est pas grave, mais la TLX se faisait attendre. En fait, tous les véhicules se font attendre chez Acura. Puis, j'ai décidé de faire une chronique cette semaine qui met un petit peu en lumière une série d'erreurs stratégiques faites par Acura. Parce qu'il faut savoir d'abord qu'Acura est une marque nord-américaine. Ça n'existe pas nulle part ailleurs dans le monde. Et il y a plusieurs produits badgés Acura sur nos routes qui étaient vendus sous l'acronyme Honda ailleurs. Mm-hmm. Donc, la RLX,
c'est
une Honda légende.
Tout à fait.
Alors, je suis parti de là parce que quand on est arrivé au Canada en fin d'année 86 pour des modèles 87, on lançait l'Integra et la légende. Et tout de suite, l'Acura légende est devenue une voiture avec une très belle réputation. C'est ce qui a permis à Acura d'aller chercher...
Et c'est audacieux de nommer une nouvelle voiture légende.
Oui, mais on l'a fait. Et on est allé rapidement chercher de bonnes lettres de noblesse au niveau de la marque Acura. L'Integra a permis ça. Évidemment, quelques années après, la NSX débarquait. Et là, l'audace d'arriver... Faut se remettre à l'époque là, où les voitures japonaises, ce n'était pas du luxe.
C'était des moyens de transport.
Ouais, tu sais, la voiture de luxe japonaise de l'époque, c'était une Maxima et une Cressida.
Ouais.
Donc, d'arriver avec une NSX qui venait rivaliser avec la nouvelle Ferrari 348, c'était très audacieux. Et on le faisait avec un niveau de technologie et de performance que Ferrari n'était pas capable d'accoter.
Et un niveau d'assemblage aussi.
Ben oui, parce que c'était parce du bricolage, les Ferrari, dans ce temps-là.
Voilà.
Alors, Acura est allé chercher ses lettres de noblesse comme ça. Mais tranquillement, on a fait une série d'erreurs en abandonnant le nom Légende au profit du nom RL.
Pour une raison obscure.
En abandonnant le nom Integra pour le nom RSX, en abandonnant la NSX après plusieurs années, même si la voiture était rendue à terme. Et là, une série de designs plus horribles les uns que les autres. Pensez au ZDX.
Le ZDX, je suis d'accord avec toi. J'ai lu ta chronique et la TL de troisième génération.
Celle qui est arrivée en 2009. Pour moi, la TL de deuxième génération, donc celle qui est arrivée à la fin des années 80, au début de. Non, attendez. 2003 comme modèle 2004. ça, c'était une voiture totalement réussie, à mon sens.
Oui.
Quand on est arrivé 5 ans plus tard avec le modèle 2009, calandre horrible, ligne très acérée, on a perdu de la clientèle là, avec ça. Là.
Oui.
Puis c'était une très bonne voiture, mais au look tellement discutable, on a perdu du monde. Et Acura a commencé à perdre ses lettres de noblesse, moi, je dirais, au milieu des années 2000, au moment où, bon, le marché du VUS grimpait, le MDX est arrivé sur le marché. Est-ce que c'était un véhicule premium? Oh, on pourrait en discuter longtemps. Même chose pour le RDX qui est arrivé d'abord en version turbo. Après ça, bon, on a remplacé ça par un CRV en dimanche avec un moteur V6. Mais c'était pas, on n'allait pas réussir à séduire avec ces. Même si ce sont des véhicules qui se sont vendus, les gens l'achetaient pour un côté rationnel plus que pour l'image de marque. Et ça, c'est devenu rapidement un problème chez Acura. Ça a été un problème, et ça l'est encore, chez Cadillac, chez Lincoln, chez Infiniti. On n'a pas pris soin de redorer le blason, de prendre soin de l'image de marque d'Acura. Et là, bien, avec...
Chez Cadillac, ça fait 100 ans qu'on essaie de... 50 ans qu'on essaie de redorer son image.
Oui, puis le logo Cadillac est encore prestigieux à l'échelle mondiale. Lincoln l'a échappé. Ça, chez Lincoln, c'est pas des farces, là. Tu mettrais pas de logo, ça se vendrait plus. Presque là. Mais puis Acura, c'est un peu le même principe. C'est-à-dire que, tu sais, moi, tu me vendrais un RDX, puis c'est écrit Honda au lieu d'Acura dessus, ça me dérange pas.
Non.
Mais avec la nouvelle génération du RDX, ah, ben là, c'est différent. Bien sûr, on a ramené la NSX qui ne peut pas nuire, là. Mais en même temps, on l'a tellement...
C'était raté comme stratégie. Ouais, parce qu'on sait qu'on ne fait pas d'argent avec ça. Donc, on profite d'une voiture forte comme ça, comme vitrine, finalement. Mais ce coup-là a été raté.
Oui, parce que la voiture s'est trop faite attendre. On a pris presque 5 ans avant de la mettre sur le marché, alors qu'on la montrait dans les salons de l'auto, année après année, sans gros changement. Technologiquement, c'était extraordinaire, encore une fois. Mais ça a été peut-être un coup d'épée dans l'eau qui contribue, oui, à l'image de la marque, mais en même temps, ce qu'on veut, c'est vendre des véhicules. Et le premier gros succès, tant esthétique que technologique, pour l'image de la marque Acura, à mon sens, c'est le nouveau RDX qui est sur le marché depuis un an, qui rejoint là, finalement les ventes des leaders. Je parle du Q5, je parle du GLC de Mercedes, le X3 même qui est en arrière. On a vendu l'année passée 3 fois plus de RDX qu'Infiniti a vendu de son nouveau QX50.
Et j'allais dire, oui, Lexus performe assez bien, mais pas dans ce segment-là.
Mais dans ce segment-là, on a
un NX là, qui...
Ouais, qui pour moi est un produit raté. On en a quand même vendu 7000 au Canada l'année passée contre près de 10 000 RDX.
Voilà. Donc, mais pourtant, Lexus, de manière générale, performe mieux que Acura.
Oui. Alors, Acura, c'était un peu moins de 20 000 véhicules vendus au Canada l'année passée. Et le RDX de nouvelle génération va contribuer à la hausse de ces ventes-là pour 2020. Bon, c'est-à-dire... Pour des périodes définies, parce qu'évidemment, on exclut le COVID, là,
qui va avoir eu un impact très négatif. La planète va avoir été sur pause quelques
mois. Mais le RDX, c'est pas compliqué, c'est 50% des ventes de la marque. Le MDX, à peu près 25 à 30%. La TLX, on est à un autre 20%. Reste que quelques miettes pour la ILX. Et le reste, c'est 3-4 RLX et NSX.
Une demi-miette chacune.
Alors la TLX est quand même une voiture d'importance pour Acura. Et là, ce qu'on fait, c'est ramener une voiture un peu plus grosse que par le passé, qui va être offerte probablement dans une échelle de prix comparable à celle de la Audi A4 BMW de série 3. C'est-à-dire, dans ces versions régulières d'entrée de gamme, on risque d'être mi-40 000 avec une voiture peut-être plus proche du 50 que du 40 d'ailleurs, mais avec une voiture 4 cylindres turbo-compressés, rouage intégral de série qui va utiliser la mécanique du RDX. Nouveau châssis. On va aussi utiliser la technologie d'infodivertissement qu'on retrouve dans le RDX. Et ça,
bon, ça, c'est malheureux.
Il y en a qui aiment, il y en a qui n'aiment pas, malheureusement. Inutilement complexe, à mon avis. Maintenant, on va aussi arriver avec une version type S, qui, elle, va offrir un moteur 3 litres turbo.
Et c'est ça le grand éclat de la semaine.
C'est ça le grand éclat parce que cette voiture-là devrait offrir 400 chevaux autour d'eux en matière de puissance. On n'a pas officialisé la puissance. Mais là, on va aller se battre contre des Audi S4, contre des BMW M340i, Mercedes C43 AMG, par exemple. Alors, on va se battre un peu contre ça, mais avec une voiture plus grosse, plus confortable, qu'on dit aussi agile sur le plan technique, mais...
On ne nous dira pas que ça se conduit comme la Buick à grand-papa.
Mais autrement dit, comprenez que la voiture a presque le format d'une BMW de série 5, mais qui serait vendue au prix d'une BMW de série 3. Et elle a une sacrée belle gueule. Il y a des traits de Jaguar avec un long museau. Moi, je déteste pas. J'espère juste qu'on va nous offrir dans les cours des concessionnaires autre chose que du gris, noir, blanc, parce qu'on nous a habitués à ça depuis 10 ans chez Acura.
Mais dans le lancement, on a vu du jaune, on a vu du orange, rouge. Donc, ça existe.
Il y a des couleurs flamboyantes, mais est-ce qu'elles vont être disponibles? Ça, c'est une autre histoire. Et il faut aussi mentionner que le futur d'Acura, c'est aussi l'arrivée d'un nouveau MDX qu'on va dévoiler d'ici la fin de l'année. Moi, j'ai pu voir des sketchs de ce véhicule-là. Donc, c'est un camion qui est beaucoup plus costaud au niveau de son look, qui va être plus spacieux et qui va offrir des technologies différentes de ce que propose le pilote, ce qui n'est pas nécessairement le cas pour l'instant.
Non.
Parce que on a la même mécanique.
Ouais.
On a un rouage intégral qui est à peine différent de ce qu'on propose dans le pilote.
C'est la coquille qui fait la différence.
Il n'y a pas de plus-value d'aller chez Acura au niveau d'équipement. Même que Acura a mis du temps à arriver avec des roues de 20 pouces, par exemple, avec un toit panoramique, alors que le pilote l'avait déjà, ce qui n'a pas de bon sens. Donc, Acura va régler ce problème-là et on devrait utiliser dans le nouveau MDX le V6 turbo qu'on va utiliser dans la TLX.
Ce qui est logique, parce que là, on ne peut pas développer un seul moteur pour un moteur uniquement pour une berline. Là. Donc, il faut l'utiliser... à pleine capacité.
Bon, l'autre bonne nouvelle, c'est que la prochaine ILX, va probablement se baser sur le châssis de la Civic, encore une fois, mais vous n'y verrez que du feu parce que côté look, ça sera complètement différent. Mais on utilisera là aussi le 4 cylindres turbo du RDX avec un rouage intéressant. Et ça risque d'être pas mal intéressant.
Ça devrait
être 272 chevaux.
Oui. Dans un format de la Civic.
Dans un format de la Civic, ça va commencer. Est-ce qu'on va le détuner un petit peu?
Oui, oui.
Est-ce qu'on va en faire un moteur de 250 chevaux?
Même si on fait ça, ça sera pas pire.
Ça va être pas mal. Et ce qu'on veut, c'est se battre contre une Classe A, contre une Audi A3, contre la nouvelle série 2 Grand Coupé, ce genre de voiture-là. On cible toujours les Allemands. Hein? On ciblera pas la Cadillac CT4.
Non.
On s'entend. On cible les Allemands. C'est vraiment la direction. Alors, moi, je pense qu'Acura a quand même un avenir qui est florissant, en espérant qu'on ne fasse pas des erreurs de planification de produits, parce qu'on est bon là-dedans chez Acura. Tu sais, on a compris que la version A-Spec du RDX, c'était de loin la plus populaire.
Oui.
Mais...
Remplissez les cours.
Non, mais il y a des lacunes au niveau des équipements
dans
cette version-là. Il va falloir corriger le tir. Les versions élites fardées de chrome, c'est plus ça qui pogne. On commence à comprendre, on commence à changer notre fusil d'épaule, mais ça va faire du bien. Donc, Acura, on est en train de s'en sortir. Les ventes vont grimper. C'est une autre histoire du côté de chez Infiniti.
Ouf!
Et pour revenir sur Nissan, parce que lorsque j'ai vu la prochaine génération des modèles Nissan, j'ai aussi vu ceux d'Infiniti qui, honnêtement, peuvent être prometteurs.
Si on se rend jusque-là.
Mais c'est ça la question. Parce que pour l'instant, Infiniti, c'est moins de 10 000 ventes au Canada.
Et chez Nissan, là, on a bien d'autres chats à fouetter aussi.
Écoute, on ferme des concessionnaires, il n'y a plus rien qui se vend. Le QX50, les ventes, c'est tellement décevant.
Pour un véhicule qui vient d'arriver, là.
Qui vient d'arriver, c'est ça. Puis il va falloir aussi comprendre une chose chez Nissan. Sacrez-nous patience avec votre CVT, là. Elle brise toujours. Le problème n'est pas réglé. Puis là, c'est rendu qu'on met ça dans des produits Infiniti. C'est ça.
Voilà, c'est assez clair. On finit là-dessus.
On finit là-dessus, OK. Bonne semaine, tout le monde.
Bonne semaine.
Bonne route.
Bye-bye.
Parce qu'à cette heure, on peut rouler.
Oui.
Cette émission est maintenant disponible en podcast. Rendez-vous dans la section balado de l'application ou du site cube.radio pour une écoute sur mesure en tout temps. Cube Radio, autrement dit.
Et maintenant, autrement écouté.